Vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous et en effet ravi de vous retrouver à l'occasion d'un nouveau webinaire sur la transition écologique. Donc on a souhaité aujourd'hui aborder la question de l'artificialisation et plus spécifiquement du nouveau cadre réglementaire relatif à l'objectif zéro artificialisation nette. Voilà, on sait que c'est un enjeu extrêmement important pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de territoires. C'est un défi collectif aussi qu'il va falloir relever. Pour cela, on souhaitait d'une part, dans un premier temps, vous proposer un résumé ou en tout cas un rappel du nouveau cadre réglementaire et donc notre webinaire est programmé à un temps idéal puisque cette semaine sont parus les derniers décrets relatifs à l'artificialisation des sols dont on vous parlera juste après. Et puis après cette présentation du cadre réglementaire donc qui sera fait par Monsieur Thierry de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature du ministère de l'Environnement. Nous aurons l'occasion d'accueillir Madame Etève, donc de la Banque des Territoires, qui vous présentera également un certain nombre d'outils d'accompagnement à la fois des industriels, mais aussi des territoires, pour notamment permettre un développement foncier à la fois et notamment un développement industriel, notamment sur les friches. Et donc ça sera dans un second temps et je vais laisser la parole tout de suite à Monsieur Thierry pour nous présenter le cadre, nouveau cadre réglementaire.
Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil et puis merci de consacrer une séquence donc de ce webinaire, enfin plutôt de consacrer un webinaire à la question du zéro artificialisation net qui est une réforme toute prioritaire pour le gouvernement. Tout d'abord, je vais vous présenter pourquoi cette réforme s'est imposé, quelles ont été les motivations à la fois du gouvernement et du législateur pour intervenir sur le cadre normatif relatif à l'artificialisation des sols. Donc tout d'abord, pour placer un peu les chiffres, l'artificialisation des sols sur la décennie 2011-2021, c'est 24 000 hectares par an d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont été consommés en moyenne, avec une consommation plus forte au début de la décennie qu'à la fin de la décennie. 68% de cette consommation d'espace est destinée à l'habitat l'ensemble des territoires, ce qui est assez étonnant, enfin c'est pas très instinctif, l'ensemble des territoires sont concernés et notamment une majorité du secteur détendu. C'est-à-dire que 60% de la consommation d'espace a en réalité lieu dans les zones où le marché immobilier est détendu et seulement 40% en zones où le marché immobilier est tendu. Concrètement, ça veut dire que la réforme cherche à répondre à une priorité qui est différente sur chacun de ces territoires. Du côté des espaces détendus, en fait, c'est se concentrer sur les parties bâties pour les faire, pour les revitaliser, revitaliser les centralités en zone détendue. Et par contre, dans les zones tendues, c'est construire et notamment continuer à construire là où c'est absolument nécessaire sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, mais tout de même en privilégiant le recyclage des surfaces déjà artificialisées et en construisant suffisamment dense. Enfin, dernier point qui me semble important à souligner, c'est que sur cette décennie, la densité des nouvelles constructions était relativement, enfin même très faible pour la plupart, puisque 51% de la consommation d'espace a été réalisée pour des opérations à moins de 8 logements par hectare, ce qui est extrêmement faible. Ça représente un logement pour 1200 mètres carrés de surface consommée au sol. Donc concrètement, maintenant que j'ai remis un peu en perspective ces chiffres sur l'artificialisation et la consommation d'espace, pourquoi chercher à maîtriser la consommation d'espace? Tout d'abord, pour préserver les fonctions écosystémiques des sols qui sont multiples, et notamment la fonction relative à la biodiversité, puisque les sols sont l'artificialisation des sols est, d'après l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, la première cause d'érosion de biodiversité en France. Et donc, c'est une priorité d'avoir une artificialisation raisonnée pour limiter cet impact sur la biodiversité. Par ailleurs, d'autres fonctions écosystémiques sont essentielles dans le contexte actuel, telles que la séquestration du carbone, qui permet évidemment de réduire le réchauffement climatique, la régulation du climat, puisque les sols ont un rôle aussi d'adaptation au changement climatique, les notions autour des crues, donc particulièrement en cas d'imperméabilisation, ainsi que tout l'aspect agronomique, puisque la réduction des espaces agricoles réduit la souveraineté alimentaire française. Sur les autres bénéfices, puisque donc les bénéfices premiers sont ceux-là, mais en réalité, il y a également tout un tas de bénéfices pour les habitants et les collectivités en raison d'un changement de logique urbaine. Les bénéfices pour les habitants, c'est tout d'abord une diminution des distances qui va se traduire par une économie à la fois en temps et à la fois en argent, puisqu'on estime que la facture énergétique des ménages, l'augmentation de, pardon, la facture énergétique des ménages a augmenté de ces 20 dernières années fortement, mais que donc 10% de cette facture totale vient de l'étalement urbain. Et enfin, donc pour les collectivités, comme je l'indiquais, et pour les dépenses publiques, l'extension urbaine se traduit évidemment par une extension des réseaux et des infrastructures, ce qui coûte plus cher à la collectivité et donc in fine aux entreprises et aux ménages du territoire. Et par ailleurs, des questions liées au cadre de vie, puisqu'évidemment, un village rempli de friches en centre-bourg est bien moins attrayant qu'un village qui a un centre-bourg particulièrement bien vitalisé et articulé avec de la nature en ville. Donc concernant la mise en œuvre concrète de cette réforme, donc j'en ai exposé les motifs. La première étape de la trajectoire donc va être sur 2021 et 2031, et une deuxième étape sur 2031-2050. Donc cette première étape, slide suivant s'il vous plaît, la première étape donc de la trajectoire consiste à réduire l'étalement urbain en limitant la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. En fait, concrètement, la réforme cherche à réduire de moitié cette consommation par rapport à la décennie précédente. Concrètement, je vous ai dit que la décennie précédente, c'était 240 000 hectares sur la décennie, donc 24 000 par an. L'objectif est donc d'arriver à environ 120 000 hectares de consommation d'espace sur la décennie 2021-2031. Ensuite, deuxième étape, pardon, de cette trajectoire, protéger les sols par une réduction de l'artificialisation jusqu'à tendre au zéro artificialisation nette en 2050. L'artificialisation nette étant entendue comme la différence entre les nouveaux espaces artificialisés et les espaces désartificialisés, donc c'est-à-dire renaturés, tels que des friches qui seraient rendues à la nature ou de la nature en ville qui serait créée. Concrètement, si on regarde donc l'objectif que je viens d'évoquer sur la première étape, celle 2021-2031, on voit donc vous avez en rouge ce qui a déjà été réalisé comme consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la précédente décennie, et ce qui reste, du coup, ce que ça représente, cette réforme sur la décennie actuelle. Vous voyez qu'en réalité, la réduction de consommation d'espace était tendancielle, c'est-à-dire que on était autour de 32 000 hectares de consommation en 2011, et sur les dernières années de la décennie, on était autour de 20 000 hectares. Et donc, l'objectif, c'est de continuer cette descente tendancielle afin de limiter l'étalement urbain. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'inverser une courbe comme on pourrait le penser. Concernant la définition concrète de ce qu'est l'artificialisation et la consommation d'espace et les outils qui vont être utilisés pour mettre en œuvre cette réforme, tout d'abord, en termes de méthode, en fait, on va se baser sur l'usage de l'espace. Donc ça, c'est pour la première décennie, comme je vous l'ai dit, l'étape 2021-2031. Donc sur cette étape-là, on va se baser uniquement sur l'usage de l'espace considéré avec comme échelle la parcelle au niveau du cadastre. Donc vous voyez une photographie aérienne et ce que ça représente en consommation d'espace naturel, agricole et forestier. Et donc vous voyez que donc l'ensemble de ce qui est en rouge, là on voit que c'est des parcelles à usage d'habitation, donc l'ensemble de ce qui est en rouge à droite correspond aux parcelles sur lesquelles les habitations sont situées. Donc ça c'est pour la période 2021-2031 et l'ensemble de ces chiffres permet en fait cette mesure permet en fait de comparer à la décennie précédente puisque pour réduire de moitié, il faut évidemment être en capacité de comparer avec des données qui ont été produites sur la décennie précédente. Donc pour tout ce qui est mesuré et qui a été mesuré dans la décennie précédente, vous avez l'ensemble qui est disponible sur le portail national de l'artificialisation. Donc là, vous avez une petite capture d'écran. Ce portail permet à l'ensemble de la population d'avoir accès à ces données jusqu'à l'échelle communale. Donc c'est un niveau assez précis qui permet de se rendre compte de la trajectoire d'artificialisation des communes, des intercommunalités, des départements, enfin de l'échelle souhaitée. Sur 2021-2031, on est donc sur cette question d'usage. À partir de 2031, on va aller sur une définition plus précise de l'artificialisation des sols qui va porter réellement sur l'atteinte aux fonctions écologiques et agronomiques des sols. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, l'objectif de la réforme est de réduire à temps, de, pardon, de attendre vers zéro artificialisation nette en 2050. Pour préserver les fonctions écosystémiques des sols. Et donc, pour être au plus près de la réalité du terrain, à partir de 2031, il sera utilisé cette définition qui est fondée sur les fonctions écologiques et qui permettra notamment de prendre en compte les processus de désartificialisation. Donc, concrètement, dans la loi, l'artificialisation, elle est définie autour de l'altération durable des fonctions écologiques des sols, à savoir les fonctions biologiques, hydriques et climatiques, et le potentiel agronomique. Donc, slide suivante. Ça se traduit concrètement par une nomenclature qui est sortie, qui a été publiée. Donc, le décret de nomenclature a été publié mardi cette semaine, donc avant-hier, qui traduit à partir de 2031 le découpage entre artificialisé et non artificialisé. Et contrairement à la décennie 2021-2031, on ne sera pas à l'échelle de la parcelle, on sera à l'échelle enfin, comment dire, à l'échelle la plus fine sur le terrain qui correspond à des polygones qui sont de 50 mètres carrés pour le bâti et de 2500 mètres carrés pour les autres catégories de surface. Donc c'est extrêmement précis et en fait ça permettra de prendre en compte tous les processus de désartificialisation qui sont internes à une parcelle. Donc concrètement, le fait par exemple de restituer une part, enfin de boiser une partie d'une ville ou d'un quartier, et même sur des surfaces privées, du coup au sein d'une parcelle, pourront être pris en compte dans le calcul de la désartificialisation. Donc vous voyez la nomenclature, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la nomenclature, et concrètement la manière dont ça se traduit en termes observationnels, vous l'avez ici, c'est un outil qui est en train d'être déployé qui s'appelle l'OCSGE, l'occupation des sols à grande échelle, qui est accessible au public et qui permet, donc vous voyez, à partir d'un croisement entre l'usage des sols et leur couverture, puisque la nomenclature se traduit enfin, 10, une surface est artificialisée en fonction de son croisement entre son usage et sa couverture. Donc, cet outil permet donc de définir si un sol est artificialisé ou pas. Donc là, l'image que vous avez à l'écran, il faut la lire comme à gauche, la photographie aérienne. Ensuite, la couverture du sol, donc si c'est boisé, si c'est herbacé, si c'est de l'eau, si c'est du bâti. Ensuite, la troisième image, c'est l'usage. Donc, si c'est un usage sportif, habitation, économique, et ensuite à droite le croisement des deux qui permet de définir ce qui est artificialisé ou non. Donc en l'occurrence les zones rouges sont artificialisées et les zones vertes non artificialisées. Et donc vous voyez que le degré de précision est très important puisqu'on détoure presque les arbres un par un. Alors ça c'était plus pour donc la question des outils et de l'observation, de la définition. Maintenant, en termes de déclinaison sur le terrain, sur ce que ça va avoir comme conséquence sur les territoires. Tout d'abord, la déclinaison, elle se veut très territorialisée. Donc, il y a un objectif qui est fixé dans la loi, qui a été voté 2 fois par le législateur, qui est donc la réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la décennie actuelle, et l'atteinte du zéro artificialisation nette en 2050. Ça, c'est les 2 objectifs nationaux fixés dans la loi. Par ailleurs, le législateur a attribué une enveloppe pour prendre en compte les projets d'envergure nationale ou européenne et les sortir de ce qu'on va demander aux régions. Donc, en l'occurrence, l'enveloppe fait 12 500 hectares pour la décennie 2021-2031. Et donc, l'État a 12 500 hectares qu'il va pouvoir utiliser pour des projets d'envergure nationale ou européenne et donc qui ne seront pas décomptés dans le solde des régions. Au niveau régional, donc ça c'est les enjeux nationaux. Ensuite, la première déclinaison va être au niveau régional. Ça va se passer avant le 22 novembre 2024. Donc les régions sont actuellement en train de travailler activement sur la mise à jour de leur SRADDET pour les régions qui ont un SRADDET et la mise à jour de leur SDRIF, PADUC ou SAR. Donc SDRIF c'est la région Île-de-France, PADUC c'est la Corse et SAR c'est les Outre-mer qui donc vont avoir comme objectif d'intégrer pour tous une trajectoire vers le ZAN en 2050. Pour les SRADDET, ça va être une réduction de la consommation de 54,5% de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la décennie précédente, les 4,5% étant ceux qui sont inclus dans le forfait national de 12 500 hectares, en fait. Donc, le fait de réduire de 54,5% sur l'ensemble des régions permet d'avoir ces 12 500 hectares qui sont dédiés aux projets nationaux. Et ensuite, donc, pardon, ça c'est avant le 22 novembre 2024, donc c'est en cours de travail du côté des régions. Ensuite, donc les régions peuvent répartir entre les SCOT une quantité, donc mettons qu'une région a consommé 40 000 hectares sur la décennie précédente, et du coup, elle aura à peu près 19 000 hectares à consommer sur la décennie actuelle. Et donc, elle pourra répartir ces hectares entre les différents SCOT ou PLU en dessous d'elle. Ensuite, les SCOT donc, devront se mettre à jour avant le 22 février 2027 à partir de ces données. Donc, les SCOT eux-mêmes recevront un quota d'hectares qui pourront ensuite répartir entre les PLU et les cartes communales qui les composent, de sorte à pouvoir, donc, à chaque échelle, répartir l'effort, comme je vous l'ai indiqué en introduction, comme on a 60% de la consommation qui est réalisée en zone détendue. Ce processus, à différentes échelles progressives, permet de répartir l'effort et donc de concentrer les hectares artificialisés, enfin les hectares de consommation d'espace, dans les zones et les territoires qui en ont le plus besoin. Et donc, il est laissé. Cette possibilité vraiment de planification est vraiment laissée à la main des différents échelons territoriaux. Donc, slide suivante. Donc, quels seront les critères qui ont été prévus par le législateur et qui permettront donc aux différents échelons territoriaux de répartir les hectares? entre leurs différentes entre les strates inférieures. Alors, les différents critères en fait sont assez instinctifs. Donc, tout d'abord, il y a la prise en compte des espaces qui sont déjà artificialisés, puisqu'évidemment, l'objectif de la réforme étant de maximiser la réutilisation des zones artificialisées. L'enjeu est de pousser à utiliser les friches, les logements vacants, enfin les locaux vacants, pour limiter l'artificialisation. La préservation du potentiel agronomique et des espaces naturels, ainsi que les enjeux de continuité écologique. Les efforts de sobriété, déjà entrepris par le passé pourront être pris en compte pour valoriser les meilleurs élèves. Les besoins du territoire, en termes démographiques et économiques seront évidemment finement analysés par les exécutifs locaux pour prendre en compte pour pouvoir répartir leurs hectares. Et évidemment, après, les équilibres du territoire et puis l'adaptation de certains territoires à des risques naturels ou notamment à la recomposition et au recul du trait de côte. En plus de ces objectifs, en plus de ces critères-là, il y a deux garanties qui ont été voulues par le législateur et qui ont été traduites dans la loi. Une garantie communale d'un hectare pour l'ensemble des communes en France qui ont un document d'urbanisme prescrit avant 2026, ce qui implique donc qu'aucune entité supérieure ne pourra en fait contraindre une commune à avoir moins d'un hectare à artificialiser si elle a un document d'urbanisme. Et ensuite, la garantie trait de côte qui permet de ne pas considérer comme artificialisée la relocalisation des activités qui sont menacées par le recul du trait de côte et donc qui seront relocalisées en rétro-littoral. En fait, elles pourront être relocalisées sans décompte d'espaces artificialisés, sous réserve évidemment que la relocalisation concerne autant d'hectares que le nombre d'hectares qui partira à la mer, de sorte à ce qu'elles puissent du coup anticiper cette relocalisation. Donc là, c'était sur les enjeux, je dirais, un peu de déclinaison territoriale qui vous permettent de voir un peu de quoi on parle et quels sont les acteurs impliqués. Maintenant, concrètement, comment est-ce que ça va se traduire sur le terrain? Tout d'abord, cette réforme, qu'est-ce qu'elle a comme ambition pour les formes urbaines et les aménagements urbains? Elle cherche à mobiliser les espaces déjà artificialisés. Donc, le premier objectif sur le terrain, c'est de réutiliser les friches, de faire du renouvellement urbain en priorité et de pousser à une augmentation enfin une diminution, pardon, de la vacance des locaux, que ce soit commerciaux ou des logements. Deuxième ambition de cette réforme qui va se traduire concrètement, c'est de créer, préserver et créer les surfaces de nature en ville. Il faut savoir que nos concitoyens souhaitent en premier, enfin dans l'ensemble des sondages depuis très longtemps, la première demande de nos concitoyens en termes de qualité de vie, de qualité du cadre de vie, c'est la proximité des transports. Et le deuxième critère, c'est la proximité de la nature, y compris dans les personnes qui vivent en ville dense. Donc la préservation et la création de surfaces de nature est une des ambitions de cette réforme. Et ça se traduit justement par le fait qu'on soit capable d'observer à une échelle très micro la création de zones désartificialisées, même en ville, pour en tenir compte. Et enfin, la dernière ambition, c'est que lorsque il y a un besoin de construire et d'artificialiser, puisqu'il y a un besoin qui est avéré, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan du logement, que cette construction soit déjà raisonnée et ensuite qu'elle soit faite dans les meilleures conditions de densité, de préservation des sols. Donc, en pratique, évidemment, on va chercher à articuler la densité et la nature en ville. Donc, dans les plans locaux d'urbanisme, un certain nombre de dérogations ont été introduites de sorte à pouvoir encourager la densité. Et pareil, lorsqu'on parle de densité, si on revient sur ce que j'ai indiqué au départ, en introduction, lorsqu'on parle de densité, on ne parle pas nécessairement de construire des tours. C'est-à-dire qu'on parle, par exemple, de passer de 8 logements par hectare à 16 logements par hectare. 16 logements par hectare, c'est des formes urbaines où il y a encore des jardins individuels qui sont relativement importants, même très importants. Donc on est sur ce type de densification et pas nécessairement de construire des habitats collectifs, absolument pas. Par ailleurs, donc, la nature en ville, mais ça, j'en ai déjà parlé un peu avant. L'objectif donc de renouvellement urbain passe notamment par des moyens mis sur la requalification des zones d'activité économique. Donc, le législateur en 2021 a demandé à l'ensemble des établissements, pardon, à l'ensemble des intercommunalités de réaliser des inventaires de zones d'activité économique de sorte à pouvoir les rationaliser et pouvoir les réutiliser et avoir un point de vue sur la qualité de ces zones d'activité économique et leur densité, puisque par ailleurs, on sait que des zones d'activité économique plus denses, au sens où il n'y a pas des terrains vacants, des terrains viabilisés mais vacants, donc des zones d'activité économique pleinement occupées, sont plus intéressantes à la fois pour les intercommunalités et à la fois pour les entreprises qui s'y implantent, puisque ça limite les coûts pour la collectivité et en général ça limite ça a également des avantages pour les entreprises. Par ailleurs, la réhabilitation des friches est un axe tout à fait prioritaire. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc de la mise en œuvre de cette réforme. Je rappelle que, enfin, je rappelle, soit, pas sûr que vous le saviez, mais donc 170 000 hectares de friches en France, c'est à mettre en regard des chiffres que je donnais avant. Sur la décennie 2021-2031, l'effort national qui est demandé en sobriété foncière, c'est 120 000 hectares. Vous voyez, on a 170 000 hectares de friches en France et on cherche à réduire l'artificialisation de 120 000 hectares. On est donc sur un levier qui peut être tout à fait majeur. Donc, à cette fin, un certain nombre d'outils d'intervention ont été renforcés, notamment des dérogations au niveau des PLU, des certificats de projet qui permettent de sécuriser les acteurs qui vont requalifier des friches, des secteurs prioritaires de droit de préemption urbain pour permettre aux collectivités locales d'agir sur ces friches pour en faire des aménagements plus viables. Et un certain nombre d'autres dérogations. Donc, pour pouvoir mettre en place ces outils, il y a une définition qui est actuellement en cours de rédaction dans le code de l'urbanisme pour définir précisément ce qu'est une friche, de sorte à pouvoir ensuite mettre en œuvre l'ensemble de ces outils d'intervention juridique. Ensuite, un certain nombre d'outils techniques, bon, j'en ai déjà parlé un peu, mais donc des outils tels que l'OCSGE, donc la cartographie de l'artificialisation, mais également Cartofriche qui recense les friches, et d'autres outils sont mis à disposition des collectivités locales par l'État. Un certain nombre d'aides à l'ingénierie également pour pouvoir faire sortir de terre des projets, notamment dans les plus petites collectivités qui ne sont pas forcément qui n'ont pas forcément des services techniques très dotés en ingénierie. On pense notamment à Action Cœur de Ville ou à Petite Ville de Demain. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais il y a également Territoire d'Industrie qui permet de financer des chefs de projet au sein des collectivités locales pour favoriser l'implantation de sites industriels et la requalification des zones d'activité économique dont je parlais avant. Et enfin, les établissements publics fonciers, qui sont donc des gros établissements publics qui sont à la manœuvre et qui sont à disposition des collectivités et des acteurs locaux, de manière à pouvoir établir des stratégies foncières et puis mettre en œuvre, cette stratégie foncière par, de l'achat de tènements fonciers, de la requalification de friches, de la démolition, de la dépollution, pour ensuite, en faire sortir, des sites. Vous voyez en bas à droite, par exemple, l'image, c'est l'image c'est AlzettBelval, une ancienne gigantesque friche industrielle, pardon, en Lorraine, qui est actuellement en cours de requalification, mais plus sur plusieurs dizaines d'hectares. Et donc, qui est les deux acteurs à la manœuvre, c'est l'établissement public foncier du Grand Est et l'établissement public d'aménagement d'AlzettBelval. Donc les moyens qui ont été dédiés jusqu'à là et qui continuent à être dédiés pour la mise en œuvre de la sobriété foncière, ça va être le fonds friche et le fonds, pardon, le fonds friche qui au départ était un dispositif de la relance. Donc 750 millions d'euros qui ont été investis entre 2021 et 2022 pour requalifier des friches et qui ont été pérennisés. Puisque face à son succès, le fonds friche enfin, la décision a été de pérenniser le fonds friche. Il a été pérennisé et aujourd'hui, il représente 300 millions. Il manque 1 million. Ce n'est pas 300 euros, mais c'est bien 300 millions d'euros par an à destination donc, de ces requalifications de friches. le fonds renaturation des villes qui représente 100 millions d'euros par an dans le fonds vert, qui est également pérenne. L'aide à la relance de la construction durable qui a représenté 330 millions dans le cadre du plan de relance entre 2021 et 2022. Le programme de transformation des zones commerciales qui a été annoncé début octobre et donc qui représente 24 millions d'euros et qui en fait est une expérimentation. Donc en fonction des résultats de l'expérimentation, ça pourra amener à d'autres programmes ensuite. L'objectif étant donc de requalifier et de densifier les grandes zones commerciales d'entrée de ville, de sorte à les rendre à la fois plus attractives, plus agréables en termes de paysage et de cadre de vie, et également plus denses, en accord avec les objectifs de sobriété foncière que je vous expose. Et enfin, le programme France 2030, démonstrateur de la ville durable, qui cherche à, enfin, qui finance des projets qui sont portés sur l'innovation dans le cadre de, enfin, sur des nouvelles formes urbaines et des nouvelles organisations urbaines dans le cadre de la ville durable et donc en particulier sobre en termes de consommation foncière. Donc ce programme est abondé à hauteur de 305 millions d'euros. Donc en conclusion sur la mise en œuvre de cette réforme, tout d'abord, ce qui est très, extrêmement important à retenir, c'est que la réduction de l'artificialisation qu'on cherche à promouvoir, d'abord, ne signifie pas la fin de toute construction, puisqu'on ne parle pas de zéro artificialisation brute, et que par ailleurs, l'objectif en 2031 est bien une réduction de moitié et non pas une réduction totale. Et elle se conjugue avec des enjeux de qualité de vie. À savoir que la réduction de l'artificialisation, c'est également la promotion de la proximité de la nature et de la nature en ville. Ensuite, elle s'inscrit dans une tendance préexistante. Comme je vous l'ai montré, la réduction, en fait, elle est déjà tendancielle et assez importante sur la décennie 2011-2021. Et donc, il s'agit d'accentuer cette réduction, mais en aucun cas d'inverser une courbe. La mise en œuvre, donc, elle a été confiée aux territoires, c'est-à-dire que les objectifs se déclinent successivement selon les différentes strates administratives, de sorte à pouvoir faire face à des enjeux locaux très différents, et notamment aux questions de dynamisme économique et de démographique, aux questions de marché foncier qui sont très différents, d'une région à l'autre, voire même d'une intercommunalité à l'autre. Et, la main est laissée aux collectivités locales pour pouvoir répartir l'effort au sein des différentes strates qui la composent, de sorte à pouvoir continuer à artificialiser sur les territoires où c'est le plus nécessaire. Et enfin, l'État accompagne les territoires avec un certain nombre de dispositifs, que ce soit avec des dispositions légales et réglementaires qui permettent de faciliter le recyclage urbain et la réhabilitation des friches ou la requalification des zones d'activité économique et des zones commerciales, mais également avec un certain nombre de financements qui ont une visée à promouvoir des systèmes urbains intenses en termes de densité, mais de qualité, notamment de qualité de vie, qui ont une bien plus grande valeur ajoutée, que ce soit pour nos concitoyens, mais aussi valeur ajoutée économique lors de la réalisation des aménagements et ensuite lors de leur promotion et de leur vente au public. Alors, si le sujet vous intéresse vraiment, vous avez un rapport du CEREMA qui est sorti récemment sur les déterminants de l'artificialisation qui montre toute la diversité d'enjeux relatifs à l'artificialisation et partout en France et qui souligne l'importance de cette territorialisation puisque finalement les enjeux d'artificialisation sont très difficiles à résumer au niveau national et notamment les raisons qui poussent à avoir de l'artificialisation sur les différents territoires.
Juste avant de laisser la parole au second intervenant, une question concernant déjà la mesure et la manière de mesurer notamment les ENAF. Espace naturel, agricole et forestier. Concrètement, comment mesure-t-on la consommation d'ENAF? Quelle est la définition à partir de laquelle on évalue la consommation d'ENAF? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, un petit peu liée, comment est-ce qu'on prendra en compte notamment les opérations de désimperméabilisation dans un certain nombre, notamment d'espaces urbains, voire de désartificialisation, si on y arrive, en termes de consommation, là aussi.
Donc, en tout cas, sur la méthode, sur la définition, donc j'ai compris qu'il y avait quand même une question sur la définition de ce qu'on entend par consommation d'ENAF. Donc, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, elle se fait sur la base de l'usage, comme je l'indiquais. Donc, elle correspond à un usage qui est agricole, naturel ou forestier. Donc, bon, pour les usages, par exemple, si on, donc les différences que ça a avec l'artificialisation, ça va notamment être sur des enjeux résidentiels sur lesquels, par exemple, un jardin résidentiel boisé ne va pas compter comme artificialisé à partir de 2031, mais en revanche va compter comme de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, puisque un usage résidentiel n'est pas un usage naturel, agricole ou forestier. Et donc, dans ce cadre-là, les espaces boisés résidentiels, donc qui ne sont pas enfin qui sont sur des zones, des parcelles cadastrales résidentielles, seront comptés comme consommés. À l'inverse, certaines installations agricoles, comme par exemple une grange, par exemple, qui sera au milieu d'un champ, sera souvent sur la parcelle cadastrale du champ. Et donc pourra être compté comme un espace à vocation agricole, et donc ne pas compter en termes de consommation d'ENAF. Donc, en réalité, ces enjeux-là sont importants, mais sont surtout importants lorsqu'on tend vers le ZAN. Et c'est donc la raison pour laquelle, et lorsqu'on commence à avoir des flux de désartificialisation qui sont importants. C'est pour ça que, il a été décidé que cette définition pourrait être mise en œuvre à partir de 2031. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair.
Oui, j'espère. Très, très concrètement, est-ce que cette politique, elle s'applique au territoire d'outre-mer?
Oui, complètement. Alors sur les territoires, alors sur les Alors, pardon, en fait, j'avoue que là, j'ai une petite, un petit doute. En fait, ça dépend si les territoires sont dotés d'un SAR. Donc là, pour le coup, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, je peux chercher la réponse pour la personne qui a posé cette question. Donc,
D'accord.
c'est le cas pour les départements d'outre-mer, hein, mais par contre, pour les territoires d'outre-mer, j'avoue que, il faudrait que je vérifie.
D'accord. Et dernière peut-être question. Donc il y a un arrêté qui est prévu pour notamment définir les projets d'envergure nationale et européenne. Quelle est l'échéance de publication de cet arrêté qui aura forcément un impact sur les capacités de consommation des régions?
Alors cet arrêté doit être donc il est actuellement en discussion. L'arrêté doit être signé par le ministre d'ici le début de l'année 2024, puisque évidemment ça a un impact pour les régions qui est bien pris en compte. Bon, cela dit, ça a un impact à hauteur de 10%. Donc c'est pas négligeable, mais ça n'empêche pas non plus complètement de travailler d'ores et déjà pour les régions. Donc effectivement, il sera signé d'ici le début de l'année 2024.
D'accord. Et concrètement, cet arrêté, il va lister projets, enfin les projets spécifiques qui rentreront dans cette enveloppe, hein.
J'ai pas entendu la fin de la question, mais j'ai compris donc que c'était la question, c'est est-ce qu'il va lister projet par projet les projets qui sont décomptés au niveau national? Et c'est tout à fait ça, en fait. Ça sera vraiment une liste projet par projet avec la surface considérée pour le projet et donc qui entre dans les 12 500 hectares nationaux.
Ok, parfait. On va laisser peut-être la parole à Madame Etève si elle est revenue. Je crois qu'elle est revenue.
Oui, bonjour à tous. On a un petit problème de réseau, mais c'est revenu. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui, nous, côté Banque des Territoires, ce qu'on propose pour accompagner les projets d'aménagement industriel. Et je laisserai la parole à la fin de la présentation à mon collègue Thomas Rollet, qui pilote notre portail national du foncier d'activité économique. Alors, donc slide suivante. Donc, en fait, côté Banque des territoires, nous, aujourd'hui, on dédie 1 milliard d'euros sur les 5 prochaines années à la réindustrialisation. On a annoncé ça en début d'année dans le cadre du projet de loi Industrie verte. Et on dédie ces 1 milliard d'euros au travers de deux volets. Le premier volet, c'est ce qu'on faisait déjà jusqu'ici et qu'on va continuer à faire, qui est vraiment l'accompagnement ad hoc de projets industriels en vue d'une industrie décarbonée. Et donc là, on ambitionne d'investir 600 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Donc notamment tout ce qui est aménagement et immobilier industriel, tout ce qui est accompagnement de la transition énergétique et environnementale de l'industrie. Et notre troisième sujet, c'est vraiment l'accompagnement de la mutation de la formation vers les métiers industriels. Et notamment, on finance donc des formations industrielles comme par exemple des écoles de production. Ça, c'est notre premier volet. Le deuxième volet, on va mettre 450 millions d'euros d'investissement pour accompagner les territoires pour augmenter l'attractivité de leur foncier industriel. On va préparer, on travaille là-dessus avec l'État, je vais vous présenter ça plus en détail tout à l'heure, 30 à 50 sites qu'on appelle des sites clés en main France 2030. En fait, on va préparer 30 à 50 sites qui seront prêts à accueillir des industriels qui voudront s'y implanter très rapidement. Donc ça, c'est vraiment nos volets d'investissement. Et en parallèle de tout ça, on a aussi des volets qui nous permettent d'accompagner tout ce qui est stratégie industrielle territoriale. Donc, on pilote un programme pour le compte de l'État qui s'appelle l'AMI Rebond Industriel, où on accompagne des territoires notamment soumis aux mutations des filières transport pour voir comment est-ce qu'ils peuvent rebondir et vraiment relancer d'autres projets industriels sur leur territoire. On a aussi des moyens d'ingénierie, donc on peut aider des territoires à financer des études pour accompagner leurs réflexions sur la stratégie territoriale. Et enfin, on a des outils digitaux. On a déjà développé notamment la DataVise site clé en main, qui permettait aujourd'hui d'avoir des informations assez précises sur les sites clés en main qui sont déjà existants. Et on est en train de préparer un nouveau portail sur l'ensemble du foncier d'activité économique qu'on vous présentera plus en détail tout à l'heure. Ensuite, je voulais vous faire un focus sur tout ce qu'on fait pour accompagner de manière ad hoc les projets industriels. Donc aujourd'hui, on a 5 grands thèmes. Notre premier thème, c'est le foncier et l'immobilier. Donc, sur le foncier et l'immobilier, ça, c'est vraiment nous, un de nos ADN, un côté Banque des territoires. Donc on peut travailler notamment sur tout ce qui est aménagement du site via une scène d'aménagement. On investit directement dans des murs d'usines et de bureaux. Ensuite, sur tous les volets transition énergétique et environnementale, on peut également installer des panneaux photovoltaïques en toiture. On a également, par exemple, investi dans une centrale de cogénération biomasse. Sur la mobilité, on travaille aussi sur tout ce qui est, bien sûr, mobilité décarbonée sur les sites industriels. Donc, on a, par exemple, installé des ombrières dotées de recharge électrique. On a installé une station GNV. On accompagne également les sites qui veulent monter en puissance sur les sujets numériques avec, par exemple, le déploiement de la 5G sur des sites industriels ou l'installation de Edge Data Center. Et puis, côté services responsables, on peut apporter, financer des services de restauration ou travailler sur des sujets de recyclage de déchets. Donc aujourd'hui, nous, on intervient vraiment sur l'ensemble de tout ce qui est aménagement immobilier et infrastructure. Notre objectif, c'est vraiment que les industriels puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui est la production, et que nous, on accompagne voilà, tout ce qui est vraiment autour de la production, donc aménagement immobilier et infrastructure. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais présenter deux focus. Le premier, c'est donc sur les sites clés en main France 2030, qui est le projet sur lequel on vous a annoncé que la Banque des territoires, on investirait 450 millions d'euros pendant les 5 prochaines années. Donc ce projet, on peut passer à la slide d'après, c'est un projet qui est coordonné par l'État, par la délégation au territoire d'industrie avec laquelle nous, on travaille de manière très, très rapprochée. Et c'est un projet qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment de mettre à disposition une cinquantaine de nouveaux terrains dans un contexte de préservation des sols contre l'artificialisation. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans ce webinaire sur le ZAN. En fait, on est vraiment en train d'essayer de voir comment, avec toutes les contraintes qu'il y a aujourd'hui avec le ZAN, on peut quand même préparer des sites qui permettront de continuer à développer notre et à redévelopper notre tissu industriel. Et donc l'objectif, c'est ensuite vraiment d'offrir rapidement aux investisseurs des terrains propices qu'en quelques mois, les investisseurs puissent arriver sur un site qui n'ait pas toutes les démarches à faire de dépollution, toutes les démarches administratives, etc. L'objectif, c'est de proposer des sites qui soient donc prêts. C'est pour ça qu'on appelle ça des sites clés en main. Donc aujourd'hui, il y a deux volets d'action. Le premier volet, en fait, dans notre dispositif site clé en main France 2030, c'est la méthodologie d'identification des sites à potentiel. Donc, on est en train de travailler avec l'État, avec les services déconcentrés de l'État et les collectivités locales pour faire remonter, pour que les sites remontent. Et ensuite, ces sites, une fois qu'ils auront été identifiés, on ne va pas simplement leur apposer un label, mais on va les accompagner collectivement, hein, nous, Banque des Territoires, mais aussi Business France, le CEREMA et les services de l'État, pour qu'ils soient le plus près possible et qu'ils puissent vraiment attirer les investisseurs, les industriels. Donc là, notre objectif premier, c'est vraiment d'avoir une liste qualifiée de terrains sur lesquels on va pouvoir ensuite lancer cette démarche d'accompagnement. Donc le calendrier de cette démarche, donc là, la démarche a été lancée mi-octobre. Les sites sont en train de candidater. Il y aura une première relève, ce n'est pas une seule relève, mais il y aura une première relève là qui a lieu demain, donc grâce à toutes les candidatures qui ont été faites par les sites sur démarche simplifiée. Ensuite, les préfectures de région vont regarder ces demandes qui ont été faites sur démarche simplifiée et prioriser chacune 5 à 10 sites. Et les sites remontés par les régions seront ensuite étudiés fin janvier au niveau national. Et dès leur identification, on lancera l'accompagnement. Et ensuite, il y aura bien sûr une nouvelle relève sur démarche simplifiée. Voilà, la méthodologie, c'est vraiment que les régions sont très importantes dans ce dispositif, puisque c'est chaque préfecture de région qui est invitée à remonter au comité de sélection nationale 5 à 10 sites. Les régions, bien sûr, peuvent s'appuyer sur les services de l'État. Enfin, nous, côté Banque des Territoires, on est bien sûr en lien très fort avec les régions pour échanger avec eux sur les sites qu'on considère les plus attractifs ensuite pour les industriels. Ensuite, quel sera l'accompagnement de ces sites? Donc, l'accompagnement de ces sites, il comprendra 3 étapes. Donc, la première étape, c'est vraiment qu'il y aura de l'ingénierie qui pourra être mise à disposition de ces sites, qui permettra de financer ou de cofinancer des études de faisabilité, des études d'expertise juridique et des études aussi pour essayer de voir quels pourraient être les meilleurs scénarios pour ces sites, comment est-ce qu'on les aménage et comment est-ce qu'on pourrait les aménager au mieux pour accueillir des industriels. Ensuite, il y aura toute une phase d'initiation et de finalisation des procédures administratives. Et puis l'accompagnement, il prendra également la forme, c'est pour ça que je suis là pour en parler aujourd'hui, de mécanismes de financement appropriés. Le fonds vert pourra financer notamment ce qui est lié à la dépollution de friches. Et nous, côté Banque des Territoires, on va apporter notre offre en prêt, en investissement que je vais vous présenter. Et l'objectif, c'est vraiment qu'à l'issue de cet accompagnement, le porteur de projet, le site, soit vraiment prêt à l'emploi pour attirer les industriels, je le redis, hein, mais au maximum. Quels sont les sites qui sont éligibles? Donc, les caractéristiques qu'on recherche pour ces sites, si vous disposez de sites et que vous souhaitez candidater, c'est des sites qui disposent d'une maîtrise foncière, qui présentent une forte attractivité économique en termes de taille, d'accessibilité logistique, de bassins d'emploi, d'écosystèmes industriels préexistants. Un site qui limite les impacts environnementaux. L'objectif, c'est, on s'inscrit dans le cadre du ZAN, c'est pas d'artificialiser des nouveaux sols pour construire ces sites. Et l'objectif, c'est également d'être raccordable facilement aux infrastructures nécessaires pour les activités industrielles, donc tout ce qui est eau, électricité, numérique. D'être déjà inscrit dans un écosystème, une gouvernance territoriale importante, avec des collectivités locales également qui portent vraiment ces sujets industriels et qui a une démarche collective positive sur ces sujets industriels. Donc là, je vous ai remis le lien pour la candidature, mais vous pouvez le retrouver facilement également en cherchant un moteur de recherche. Donc nous, côté Banque des Territoires, on va mobiliser tous nos outils pour accompagner ces sites, nos outils d'investissement, de prêt, d'ingénierie, L'ingénierie, c'est assez classique, hein, c'est vraiment financer toutes les études de préfiguration des sites et les études de montage juridico-financier. Là, je vous ai mis tous les détails, comme ça, vous les aurez à l'issue du webinaire. Pour l'investissement et le prêt, aujourd'hui, on peut cibler des types de sites assez larges. Hein. On peut cibler des sites portés par des acteurs privés, des acteurs publics. Pour nous, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que ces investissements et ces prêts, ils se fassent conformément à la doctrine de la Banque des Territoires, c'est-à-dire en tant qu'investisseur, hein, on veut un modèle économique qui permette de dégager un retour sur investissement qui correspond au risque, avec un risque qui est maîtrisé. On aura bien sûr, en tant que Banque des Territoires, des exigences environnementales très fortes, et nous, on investira également simplement en minoritaire aux côtés des porteurs de projets, qu'ils soient privés ou publics, comme par exemple des collectivités locales. Aujourd'hui, cette nouvelle offre, elle est nouvelle, bien sûr, cette démarche commune avec tous les services de l'État, avec Business France et le CRMA, c'est quelque chose de nouveau. Mais on a déjà travaillé sur des sites, on a déjà financé des sites similaires. Notamment, on peut parler par exemple du site Usine, qui est situé à Vénissieux, juste à côté de Lyon, et du site Route des Lasers à Pessac. Ces deux sites ont des similitudes, des sites qui étaient portés par des collectivités locales, vraiment avec des sites qu'on a développés petit à petit, avec des lots qui sont attribués au fur et à mesure aux entreprises qui souhaitent s'implanter et d'autres lots qu'on développe au fur et à mesure. Avec à chaque fois aussi des cahiers environnementaux assez ambitieux, notamment portés par les exigences de la Banque des Territoires et des volontés de mutualiser le maximum de services pour garder le plus de foncier possible pour les entreprises.
Donc, en complément de ce qu'on a présenté juste avant sur les sites clés en main France 2030, qui ont par ailleurs vocation potentiellement à rentrer dans ce portail national, on a reçu une lettre de mission, le directeur de la Banque des Territoires, Olivier Sichel, et le directeur du CEREMA ont reçu une mission de pouvoir construire et coordonner la création d'un portail, un portail du foncier d'activité économique que je pilote à la Banque des Territoires. Et donc, les objectifs qu'on a rappelés de manière assez vite, hein, c'est pour répondre à ce double contexte, à la fois un enjeu de réduction de l'artificialisation des sols et de baisse de la consommation de ces sols, qui a par ailleurs été présenté juste avant, et aussi un enjeu de développement économique avec donc les différents plans qui permettent de faciliter, accélérer les implantations, notamment industrielles, de mettre aussi à disposition du foncier. Et donc, on a cet enjeu au travers du portail national. On est notamment mandaté, comme vous pouvez le voir sur cette slide, pour construire un portail qui permette de recenser l'offre de foncier, notamment l'offre de foncier disponible maintenant, à court, à moyen terme, à destination notamment des entreprises. On a aussi l'objectif de structurer la connaissance du foncier. Jusqu'ici, on a une connaissance qui est assez disparate de ce foncier, notamment du foncier d'activité économique, et surtout de capitaliser sur des portails ou des projets qui existent par ailleurs au sein des régions ou même au sein des intercommunalités, de pouvoir aussi favoriser le recensement homogène à l'échelle de tous ces espaces, de toutes ces initiatives, et surtout de mettre en place une plateforme collaborative qui permette pour les utilisateurs, que ce soit des entreprises ou des collectivités, de pouvoir plus facilement rentrer en contact avec les bonnes personnes. Sur la slide suivante, on a rappelé que cet enjeu de portail, il n'était pas fait seulement qu'avec la Banque des Territoires et le CEREMA. On s'appuie sur un ensemble d'acteurs comme l'IGN, le BRGM, le CSTB, l'INSEE et bien sûr Intercommunalité de France et Région de France, avec deux cibles particulières, les collectivités, pour les aider à mettre en place une stratégie de sobriété foncière et plus globalement d'identifier quels sont les fonciers qui peuvent être mis à disposition maintenant ou à plus long terme. Et puis par ailleurs, pour les entreprises qui sont dans une perspective de recherche de fonciers. Et l'idée, c'est à la fois d'avoir des fonciers qui soient disponibles et qui soient d'intérêt pour ces entreprises, mais aussi et surtout de pouvoir basculer vers le bon contact, c'est-à-dire bien souvent les régions et les acteurs de l'implantation dans ces territoires. On part pas de nulle part. Comme l'a précisé Camille, on a lancé une database 6 clés en main qui recense sur ces espaces, ces 89 sites en particulier, les disponibilités encore disponibles sur ces zones d'activité économique. Et par ailleurs, on a lancé aussi une offre qui s'adresse notamment aux collectivités et qui permet de réaliser les inventaires des zones d'activité économique, donc qui étaient demandées jusqu'ici jusqu'à la fin du mois d'août. Mais on a laissé ouvert cette offre dans le sens où aujourd'hui, on a plus de 460 EPCI qui nous ont fait la demande. Donc, ça représente à peu près 40% du territoire français. Et donc, ça permet aussi de pouvoir détecter les disponibilités foncières, ou en tout cas la vacance dans ces territoires, et du coup, d'enrichir le portail. Peut-être pour terminer, on vous a présenté aussi, on a mis quelques captures sur les maquettes de notre portail national. Et donc, on met à disposition les chiffres qui sont présentés, ne sont pas du tout les bons chiffres, ce sont juste des maquettes, hein, rien de figé pour l'instant. Et ça vous permet de voir aussi la façon dont on voit les choses avec un portail fortement orienté cartographique qui permet directement d'identifier les disponibilités sur le territoire. Et puis, comme vous le voyez, de pouvoir aussi avoir les bons contacts pour faciliter la prise de contact et du coup l'implantation. On a également cet enjeu d'observation du foncier et donc on retrouvera, grâce aux travaux du CEREMA et d'un certain nombre d'acteurs, les différents éléments de connaissance du foncier, pas forcément disponibles, mais aussi de foncier au sens large sur l'ensemble du territoire français.
Parfait, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation là, de ces deux outils qui doivent aider en effet à accompagner le ZAN et puis plus globalement la réindustrialisation des territoires. Peut-être une ou deux questions en effet dans le chat. Déjà une première par rapport à l'articulation entre vos outils sans doute et le rôle des EPF notamment dans les territoires. Les EPF ayant en particulier un rôle important pour revaloriser des sites orphelins. J'imagine que les choses se font en bonne cohérence, mais voilà, peut-être que vous pouvez nous en dire plus.
Oui, en fait, nous, on travaille hein, bien sûr avec les EPF. Nous, côté Banque des Territoires, nos interlocuteurs vraiment classiques, avec qui on travaille tous les jours, hein, c'est vraiment les collectivités locales, et donc c'est eux qui travaillent avec les EPF. Donc nous, on travaille avec les EPF hein, aujourd'hui. On travaille avec eux, et bien sûr, en bonne intelligence. Nous, comme je le disais, on est investisseurs en minoritaire. Hein. C'est nous, on n'a pas vocation à aller acquérir du foncier tout seul. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vient, c'est aider les porteurs de projets qui cherchent à acquérir du foncier pour développer ensuite des sites industriels, qu'ils soient publics ou privés. On travaille beaucoup, notamment avec les partenaires publics. Donc on travaille notamment avec les EPF, en effet.
D'accord. Et concrètement, donc un industriel qui aurait éventuellement donc un espace disponible pour entrer soit dans le dispositif clé en main, soit peut-être sur le portail, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il va avoir donc le préfet de région tout à l'heure, c'est ce que vous avez dit hein, pour les sites clés en main, et peut-être qu'il s'adresse directement à vous pour le portail, c'est ça?
Alors pour le portail, on est en train de vous mettre là dans le chat, on va vous mettre l'adresse mail. Pour nous contacter si vous avez un foncier que vous souhaitez entrer dans le portail. Donc ça, on est en train de vous mettre et vous allez l'avoir. Et ensuite, si vous avez un site à proposer pour le site Clé en Main France 2030, là, il y a un formulaire à remplir dans Démarche simplifiée. C'est j'avais mis aussi le lien dans la présentation, dans les slides. Voilà, sinon ça se retrouve facilement. Donc il y a un lien, il y a un questionnaire à remplir voilà, pour candidater.
D'accord.
Après, pour tout ce qu'on propose, nous, côté Banque des Territoires, vous pouvez contacter nous, nos directions régionales. En fait, on est présent, on a une trentaine d'implantations hein, sur le territoire français. Toutes les coordonnées sont sur notre site Banque des Territoires. Et n'hésitez pas du tout, enfin voilà, vous pouvez trouver les coordonnées. N'hésitez pas à contacter nos équipes territoriales hein, qui pourront vous accompagner dans vos projets et répondre à vos questions.
D'accord. Donc, par exemple, un industriel qui souhaite s'implanter dans un territoire et pouvoir éventuellement construire un projet en lien avec les aides, il s'adresse directement à la Banque des territoires au niveau local.
Alors, en fait, ça dépend ce qu'ils cherchent. S'ils cherchent des co-investisseurs, nous, on apporte du co-investissement. S'ils cherchent des co-investisseurs, par exemple, parce qu'ils veulent construire une nouvelle usine, nous, on finance, par exemple, les murs d'une usine. Donc, on crée une société de projet dans laquelle on va investir aux côtés de l'industriel. S'ils souhaitent faire, par exemple, j'ai français ça sur l'immobilier, il y a aussi l'aménagement et il y a aussi, bien sûr, tous les sujets de transition énergétique et écologique. Là-dessus, il vient nous voir directement. S'il cherche un foncier de manière un peu plus générale, pour l'instant, il cherche son foncier et il voudrait savoir quelles sont les aides à obtenir, dans ce cas-là, le contact privilégié, c'est vraiment l'Agence régionale de développement. L'Agence régionale de développement, c'est eux qui ont la vision vraiment aujourd'hui la plus fine de leur région et c'est eux qui pourront les orienter vers différents guichets qui peuvent apporter des subventions.
D'accord, ok. Pe peut-être une dernière question à Monsieur Thierry. Comment est-ce que concrètement on fait pour vous remonter des projets qui pourraient rentrer dans les enveloppes régionales de mutualisation, de l'artificialisation, notamment voilà, des projets de création de zones d'activité? Est-ce que la demande, elle passe au travers du préfet de département, du préfet de région? Qui doit porter la demande pour essayer de faire rentrer des projets dans ces enveloppes de mutualisation régionale?
Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que mon micro est parfait. Donc, sur tout ce qui concerne les projets d'envergure régionale, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation, mais donc, tout comme il y a une enveloppe nationale de 12 500 hectares pour les projets d'envergure nationale, le législateur a ouvert la faculté aux régions, mais également aux SCOT, de faire des enveloppes pour des projets d'envergure régionale ou d'envergure locale. Donc, ce n'est pas une obligation. Chaque région est souveraine sur ce point-là. Et ensuite, ce sont les régions et les SCOT qui décident donc à la fois de l'enveloppe et à la fois des modalités selon lesquelles elles vont retenir des projets pour les faire valoir en tant qu'envergure régionale. Donc, ça leur permet, tout comme c'est le cas à l'échelle nationale, de effectivement promouvoir par exemple des zones d'activité qui vont avoir une valeur régionale ou une implantation industrielle qui aurait une valeur régionale et de ne pas la décompter du processus d'artificialisation des échelons locaux. Donc concrètement, il faut s'adresser à la région ou au SCOT, en collectivité locale, puisque c'est vraiment leur compétence, les services de l'État agissant en contrôle de légalité, mais ce n'est pas les services de l'État qui sont à la manœuvre dans les arbitrages réalisés à l'échelle à partir de régional et en dessous.
Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Le temps est écoulé. Juste pour les adhérents MEDEF, on vous a remis, enfin, je vous remets le lien dans le chat également du document Vademecum qu'on a publié là maintenant il y a un mois. C'est un document un petit peu de synthèse là aussi hein, qu'on a essayé de faire autour de la. Du cadre réglementaire de la loi ZAN et justement d'un certain nombre d'outils qui vous ont été présentés cet après-midi. Et l'objectif de ce Vademécum, c'est notamment permettre peut-être aux territoires et aux MEDEF territoriaux de s'impliquer un petit peu dans justement cette planification territoriale dont on a beaucoup parlé, et puis essayer de travailler avec les acteurs du territoire pour d'une part identifier sans doute les projets d'envergure régionaux et puis essayer de là aussi de trouver les opportunités d'investissement notamment dans des sites industriels ou dans du foncier industriel. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi feuilleter ce document. Donc on vous a mis un certain nombre de documents dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas. Je remercie mes deux intervenants, mes trois intervenants, puisque vous étiez trois. Je remercie aussi la MEDEF Academy. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.